Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez un nouvel épisode spécial de Sans Titre. Les événements récents en cours au Centre Pompidou nous ont contraints à trouver d'autres modalités d'enregistrement pour nos entretiens. C'est pourquoi vous entendrez uniquement Thibaut lors de cet épisode. Dans le cadre du Salon Approche 2023, il a eu l'occasion d'interviewer le galeriste Yann Di Meglio de la galerie Intervalle. Bonne écoute!
Donc ça s'appelle Intervalle, tu es ouvert depuis combien de temps?
Depuis bientôt 10 ans, depuis ouais. 2014.
Depuis 2014. Et tu as changé deux fois de mur, au début tu étais à Belleville.
Oui, la galerie elle a ouvert à Belleville, rue Jouy-Rouve, et elle a fermé au milieu de la période Covid en 2021,
ouais.
Pour rouvrir assez vite dans le 9e arrondissement, tout en bas de la rue Le Pelletier. Mmh. Le métro Richelieu de Rouault. Et je viens de fermer ce local pour des raisons immobilières, en fait. Mmh. L'immeuble dans lequel se trouvait la galerie a été vendu par son propriétaire. Il y a des gros travaux qui vont démarrer et en gros, on a été expulsés, quoi.
D'accord, très bien.
Donc là, je suis à nouveau en recherche d'un nouvel espace. Okay. Si possible pour le printemps.
D'accord. Et tu vas participer donc au salon Approche. C'est pas la première fois que tu participes à Approche. Ça fait combien de fois?
Alors ce sera la 5e participation.
D'accord.
À Approche. C'est un salon que j'aime beaucoup effectivement.
Ouais.
Je sais pas si c'était la question.
Peut-être. Ouais.
Mais ouais non très rapidement c'est un salon où j'aime vraiment aller. Alors les. D'un point de vue commercial, ça s'est pas toujours bien passé. Pour être très franc, sur les 4 participations précédentes, il y en a eu 2 très bonnes, une moyenne et une avec beaucoup moins de ventes. Mais c'est un salon sérieux qui marche bien, qui est avec une vraie proposition artistique intéressante, cohérente et avec un très bon public.
D'accord.
Avec un mélange équilibré entre voilà, des amateurs, des badauds, mais aussi beaucoup d'acheteurs.
D'accord.
Et beaucoup d'experts, de gens qui s'intéressent à l'art pour éventuellement l'acheter, ce qui est quand même le principal objectif d'un galeriste quand il participe à un salon.
Et tu dis qu'il y a une fois qui n'a pas bien marché, on va y revenir, mais tu penses que ça n'a pas marché pour quelle raison? Quand ça marche, donc j'imagine le salon, la foire, il y a des visiteurs de qualité qui sont là, et puis tu présentes un super artiste, mais j'imagine que quand ça marche pas, c'est pas forcément que l'artiste est mauvais, peut-être qu'il est pas au bon endroit.
C'est une très bonne question, Thibaut. Et en fait, malheureusement, j'ai pas la réponse. C'est que quelqu'un qui achète, en général, quand un collectionneur achète, on discute un peu avec lui ou avec elle, et on sait pourquoi la personne a acheté. Quelqu'un qui n'achète pas, qui tourne les talons, mm-hmm. et puis qui repart poliment sans rien dire, on ne sait pas pourquoi elle n'a pas acheté. On ne sait pas pourquoi cette personne n'a pas acheté. Et en général, elle ne vous le dit pas. Donc c'est à nous d'émettre des hypothèses. Et elles sont variées, elles sont très, très diverses. Ce n'est pas à cause de l'artiste, parce que si on choisit de participer à un salon avec un artiste, on ne lui a pas forcé la main. Hein. Mm-hmm. Donc ça, c'est un choix personnel. Donc ça peut être éventuellement... que cet artiste ne correspond pas au public. En fait, mmh. dans une galerie, on a des artistes, alors c'est assez homogène, en général, une galerie a une ligne, mais on a des artistes qui sont différents, qui ont des boulots qui sont différents. Et c'est possible qu'on présente un artiste dans un salon, alors que ce salon a lui-même une image à un public qui va pas matcher avec cet artiste.
Mmh. Voilà.
Bon, ça peut être une première erreur. C'est la principale, d'ailleurs, souvent. De pas avoir assez bien cerné le public de ce salon. Donc en l'occurrence, là, je pense que c'est ce qui s'est passé.
D'accord. Mais j'imagine aussi que des fois, quand tu vois des nouveaux artistes, ou quand tu présentes, parce que tu présentes un dossier, non, pour
oui.
participer à un salon ou une foire,
ouais,
j'imagine que...
Ouais.
Parce que t'as fait Paris Photo aussi une
oui.
année dans le
ouais,
secteur...
Deux fois dans le secteur Curiosa.
Ouais, dans le secteur Curiosa. Ouais. Tu présentes un dossier, puis tu te dis, j'imagine, bon, je présente une telle ou un tel, et ça va cartonner. Enfin, ouais. En tout cas, j'imagine qu'il y a cette intention-là. Je sais pas où allait ma question. Non, c'est-à-dire que tu commences aussi effectivement à avoir une expertise. C'est pas Ça oui, fait... T'as ouvert depuis 2014, t'as fait aussi la Unseen.
Oui.
Tu l'as fait depuis... Tu l'as fait quelques fois aussi, la Unseen.
Ah, Unseen, quatre fois, ouais. Oui, oui, non, mais on apprend de ses erreurs, c'est sûr. Après, sur un salon, l'erreur que peut faire un galeriste, alors souvent un peu à cause de certains artistes, c'est de présenter une expo comme on la présenterait en galerie. C'est-à-dire que faire un stand en foire, c'est pas faire une expo en galerie, c'est deux choses différentes. En foire, tout va très vite. C'est concentré sur une période qui est très courte, qui dure 3-4 jours. Et les visiteurs sont un petit peu pressés, ils ont plein de galeries à voir, plein d'artistes à rencontrer, donc il faut être beaucoup plus efficace dans l'accrochage, dans le choix des œuvres, dans la scénographie. Donc on en reparlera peut-être plus tard de la scénographie, mais c'est le stand, il faut qu'il soit efficace. Il y a un aspect commercial parfois qui prend le pas sur l'aspect artistique. Quand on rentre dans une galerie, qu'on peut y revenir, qu'on peut y rester 3 heures, on peut laisser au public le choix de rentrer tranquillement dans les œuvres, dans la scéno, de faire apparaître des nuances, des choses très délicates, avec des boulots même différents pour un même artiste. Sur une foire, je pense qu'il faut que ce soit beaucoup plus efficace, beaucoup plus épuré.
J'imagine aussi qu'il doit y avoir un petit pragmatisme de... Il y a aussi le fait que c'est pas gratuit de présenter son... présenter un artiste dans une foire ou un salon.
Bien sûr.
Et que, concrètement... en vendant des pièces entre 1000 et 3000 euros, ou plus ou moins, il en faut quelques-unes, finalement, en donnant 50% du prix en plus à l'artiste. Il faut faire quelques ventes déjà pour rembourser ce truc-là. Quoi.
Ah, ça, c'est important d'en parler. Pour une galerie comme la mienne, qui fait partie quand même des petites galeries à Paris, ou même en France, l'enjeu financier sur... tous les salons auxquels je participe, il est énorme. C'est un gros investissement. Avant que le premier jour du salon commence, on a déjà donné beaucoup d'argent à l'organisation. Et il faut à tout prix vendre. Donc effectivement, pour un artiste qu'on présente, on va de fait choisir les œuvres qu'on pense être les plus faciles à vendre. Déjà, ça, c'est un premier choix. Donc, ce qui peut créer des frustrations, parce qu'il y a un artiste qui fait « Non, mais ça, on l'a déjà montré plein de fois. Ça me fatigue, j'ai envie de montrer des nouvelles choses. » Et là, on lui dit « Bah, attends, t'es gentil, mais... » Enfin, on me dit pas comme ça, mais... Et bon, moi, il faut que je vende. Il faut que je m'y retrouve. Donc, on va jouer la sécurité. Donc, effectivement, les gens qui vont dans tous les salons, qui vont à toutes les expos, des fois, ils disent « Ouais, bah, le salon, c'est un peu ennuyeux, parce que c'est des trucs qu'on a déjà vus. » Oui, certes, mais...
Oui.
Voilà, c'est un peu le choix de la sécurité, parfois.
Mais moi, j'ai remarqué sur mes expos en salon, même récemment, hein, que en plus, il y avait des fois des choses qui se jouaient à presque rien. C'est-à-dire que le changer d'écart, donner un petit peu moins de respiration, un petit peu plus, ça changeait tout, et qu'effectivement, il fallait aussi faire confiance aux galeristes... sur ce qu'il est en train de faire, et même si artistiquement des fois
c'est un truc important, la scénographie dans un salon, faire un stand, monter un stand de salon, c'est un truc qui est mais moi qui me fascine. En fait, il faut que ce soit efficace. Je reviens à ce terme d'efficacité, c'est-à-dire que il faut qu'on arrive à se projeter.
T'en veux ou pas?
Ah, je veux bien, ouais.
Il faut qu'on arrive à se projeter
dans les différents moments du salon. Pendant le vernissage, il va y avoir beaucoup de monde. Le week-end, il va y avoir des gens avec des sacs à dos, avec des enfants, des poussettes. En semaine, entre midi et deux, il y aura moins de monde.
Ouais.
Donc en fait, l'espace de ce stand qu'on connaît pas par définition, c'est pas comme une galerie où on connaît le moindre recoin de mur. Il faut qu'on l'habite, et il faut l'habiter intelligemment tout de suite. On a juste une journée pour installer le stand. Et il faut prévoir que à tel endroit il va y avoir il faut penser au flux de circulation aussi. C'est-à-dire que les gens vont se masser à tel endroit du stand, donc ça va être un endroit où il faut peut-être pas mettre une œuvre importante parce que tout le monde va lui tourner le dos à cette œuvre. Il faut qu'il y ait assez de recul pour certaines œuvres, donc il faut peut-être mettre sa chaise ou sa table à un certain endroit du stand. C'est important parce que c'est comme ça qu'on peut louper une vente. Si on discute avec quelqu'un qui est intéressé par une œuvre, mais que cette œuvre, on peut pas la voir parce qu'il y a d'autres personnes qui discutent devant, on peut pas non plus déplacer ces personnes manu militari, quoi. Donc il faut que le stand soit pensé, mais même dans ses déplacements, même dans la façon dont on va voir les œuvres, le recul, pas de recul, pas trop chargé non plus, parce que il faut que les œuvres existent individuellement. il faut que la personne qui a peut-être envie d'acheter cette œuvre, mais pas celle-ci, mais il faut qu'il puisse tranquillement regarder cette œuvre et qu'il n'en ait pas une collée juste à côté. Donc, tout ça, bah, effectivement, il faut y penser le jour de l'accrochage, même en amont, si on fait des scénos en 3D, ce que je ne fais pas, moi. Je fais confiance au jour de l'accrochage. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, que je travaille avec une scénographe qui vient toujours avec son œil neuf le jour de l'accrochage et qui me dit, enfin, qui pointe parfois des trucs auxquels je n'ai pas pensé, moi. Bah, je préfère qu'on réfléchisse à deux, à trois avec l'artiste, quand il est là ou elle est là, ce qui est mieux, d'ailleurs. Donc, on est toujours au moins trois. Pour trancher, quoi. Parce que le jour du montage, il faut trancher. Et c'est vrai que le galeriste, c'est lui qui doit garder le cap de cette efficacité commerciale. Je pourrais appeler ça comme ça. Le jour du montage, pour toute la durée du salon, pour essayer de penser à tous ces trucs comme ça qui peuvent casser une vente.
Pourquoi tu as décidé de devenir galeriste ?
Alors, j'ai décidé de devenir galeriste. Ça s'est fait assez progressivement et assez vite en même temps. J'ai pas une formation artistique. Je suis journaliste de formation. Je fais des études de lettres, puis des études d'histoire. J'aurais pu devenir prof d'histoire. Et puis finalement, j'ai décidé de passer des concours d'école de journalisme. Et j'ai travaillé pendant 15-20 ans comme journaliste pour la télévision. En news, faire du reportage à la télévisée. Donc ça peut sembler être très très loin d'une galerie d'art, tout ça. Ça l'est, effectivement. Mais parallèlement, je me suis toujours intéressé à l'image. Parce que comme journaliste télé, je travaillais quand même avec ce matériau-là, l'image animée, la vidéo. Et donc voilà, sans rentrer dans les détails, parce que ce serait peut-être ennuyeux, mais je me suis toujours intéressé à la grammaire de l'image, au montage, à ce que peut dire une image, ce qu'on lui fait dire parfois. Et je me suis aussi intéressé à l'image arrêtée. Quand j'étais journaliste, je fréquentais énormément les galeries, les salons, les foires, pour me reposer l'œil, tout simplement. J'en avais marre de voir de la vidéo et j'avais besoin de voir de l'image arrêtée. Donc la première fois que j'ai poussé une galerie photo, c'était pour cette raison-là. Le week-end, voilà, je sortais d'une journée de boulot un peu fatigante et comme j'aime l'image, je voulais voir des images, mais des images arrêtées. Donc je suis rentré dans la photo comme ça et puis j'ai commencé à acheter des œuvres de photographes. D'abord documentaire, parce que c'est ce qui était le plus lié à mon travail de journaliste. Donc pas toujours en galerie, hein, des fois directement au photographe. Et c'est comme ça que j'ai pris le vice, en fait, parce que acheter de l'art, ben ça tu le sais, toi, quand tu vends une œuvre à un collectionneur, tu vois dans ses yeux cette joie, en fait. Et ce qui m'a fait basculer vers la galerie, c'est de revivre ça. Et de revivre ce moment où l'acheteur, en fait, a vraiment pas l'impression de dépenser de l'argent quand il achète une œuvre d'art. Et ça, aujourd'hui, c'est assez rare pour le dire. On achète plein de choses parce qu'on est obligé de les acheter. Que ce soit des abonnements téléphoniques, des abonnements Netflix, de la nourriture, une voiture, tout ça. On l'achète et on fait des sacrifices. Acheter de l'art, c'est pas du tout ça. Je suis super content de pouvoir revivre ça de temps en temps, à chaque fois qu'il y a une vente, cet échange avec le collectionneur, l'amateur, qui est vraiment heureux comme un gosse, quoi, d'acheter une œuvre, parfois chère. Donc il y a des gens même qui font des sacrifices, hein, tous les collectionneurs sont pas riches, mais certains, voilà, même qui demandent à payer en 10 fois, ce que j'accepte évidemment. Mais voilà, donc pour eux, c'est un sacrifice, mais c'est avant tout du plaisir. Donc j'avais envie de vivre ça dans une galerie, et puis d'accompagner des artistes. Moi, je suis pas artiste, j'ai pas ce talent ni ce don, mais je voulais vivre ça un peu à leur côté, quoi.
Est-ce que tu t'attendais à ça en ouvrant ta galerie? Tu pensais que le métier serait comme ça?
Non, évidemment. Enfin, il y a beaucoup de choses que j'apprends sur le tas, hein, que j'apprends encore aujourd'hui. Mais j'ai fait des erreurs dans les premières expos. Effectivement, il y a beaucoup de surprises, des bonnes, des mauvaises. Mais enfin, je suis désolé de pas donner une réponse plus claire. Mais,
non, c'est clair.
Mais non, je m'attendais pas à ça. Mais en même temps, vu que j'étais client de certaines galeries, déjà, ce que j'ai découvert, si, pour répondre à ta question, ce que j'ai découvert, c'est le rapport avec les artistes, que je connaissais pas. Mmh. Parce que moi, j'étais client, j'étais un peu de l'autre côté de la barrière. Donc ça, effectivement, c'est plus dans ce domaine-là que j'ai beaucoup appris et que j'apprends tous les jours, évidemment, parce que c'est un travail de rencontre.
Et le rapport avec les artistes qui sont dans ta galerie, ça se passe bien ?
Parfois, ouais. Non, souvent, ça se passe bien.
Ouais.
Souvent, ça se passe bien, mais c'est aussi parce que je prends beaucoup plus mon temps avant de commencer à travailler avec un ou une artiste. Je me précipite moins. C'est-à-dire que je fais plus seulement confiance au travail de l'artiste.
Est-ce que tu peux peut-être mettre des mots sur la nature de la relation entre le galeriste et l'artiste ?
Ah, c'est une relation extrêmement complexe. C'est, par certains aspects, ça peut ressembler à une relation amicale et en même temps, c'est une relation commerciale. Donc, on dit toujours que l'argent peut fâcher des relations, mais c'est exactement ce qui peut se passer avec un artiste. Et en plus, l'artiste produit un travail. Donc, la première rencontre, c'est avec le travail d'un artiste. Et au début, j'ai fait quelques erreurs. Effectivement, les 2-3 premières années, je me contentais du travail de l'artiste. En me disant, ah, j'aime ça, super, je vais bosser avec cet artiste. Ben non, en fait. Parce que derrière l'intérêt pour un travail, il y a un être humain, un artiste, et ça peut mal se passer, parce que l'artiste peut aussi se faire de fausses idées sur le boulot du galeriste, et donc on peut partir sur une mauvaise voie. Pour être plus clair, en tout cas moi, aujourd'hui, je fais attention à ce que l'artiste comprenne aussi les contraintes du galeriste. Donc c'est à nous de l'expliquer. Les contraintes financières, l'engagement financier, le fait qu'il n'y aura pas nécessairement des ventes tout de suite, qu'il y aura peut-être une phase d'investissement financier et humain avant de toucher un peu d'argent. Donc la prise de risque, elle doit être partagée. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Ouvrir une galerie, ça coûte de l'argent au galeriste. Une collaboration avec l'artiste, elle n'est pas nécessairement payante tout de suite. Parfois, dès la première collaboration, on arrive à bien vendre et l'artiste gagne tout de suite de l'argent. Parfois, il faut plus de temps. Et ça, il faut que l'artiste l'accepte et le comprenne.
Je pense que c'est vachement... Je pense que c'est hyper important de parler de ça, justement. Qu'effectivement, l'image qu'on a du travail, du rapport à la galerie, en tant qu'artiste, hein, du côté des artistes, l'image qu'on a du travail avec une galerie et ce que c'est vraiment, c'est un monde. Est-ce que l'idée que les gens s'en font aussi, c'est un monde. Par exemple, le 50%.
Oui.
Quand on commence, on a du mal à... On a du mal à comprendre vraiment ce que c'est.
Les 50%, c'est important, parce que justement, c'est pas toujours 50%, et je l'ai appris encore hier avec un artiste qui expose en ce moment en Belgique, dans une galerie, et il m'a dit... donc, il vend dans cette galerie les mêmes œuvres que moi, je vends en France. Donc, moi, en France, cet artiste-là, je pense que c'est ce que font toutes les galeries françaises, c'est 50%, mais une fois la production remboursée à l'artiste... Ouais. C'est-à-dire que pour la galerie, ce n'est pas 50%, c'est entre 30 et 40%, parce qu'il y a la TVA, et encore, il y a d'autres charges qui viennent encore faire descendre ce pourcentage. Donc l'artiste, en général, il a un peu plus, mais ce qui est normal, puisqu'il a dépensé de l'argent de production.
Oui parce qu'en fait, l'artiste aussi gagne 30-40%, finalement.
Et cet artiste-là me dit, non, mais tu sais, en Belgique, là, cette galerie, finalement, elle prend plus parce qu'elle ne me rembourse pas la prod. Là, je fais quoi ?
Hein ? Ah oui, non, c'est bien.
Et il me dit, non, parce que c'est une galerie qui vient du milieu de l'art contemporain, tout ça, et puis pour les sculptures, en tout cas, bon, il décide de ne pas rembourser la prod. Et je lui dis, et t'as accepté ? Il me dit, oui, parce que bon. Bref, donc, une petite parenthèse. C'est pour les artistes, en tout cas, qui t'écoutent, là, qui écoutent ce podcast, il faut vraiment qu'ils s'intéressent et qu'ils n'aient pas peur de poser la question aux galeristes. Lors d'une première collaboration, c'est 50%, c'est quoi ? Parce que ça ne veut rien dire, 50%.
Ouais,
c'est 50% après TVA, après remboursement de la prod, oui ou non, après, voilà. Donc, mais en gros, c'est ça, effectivement.
Tu parlais de la ligne de ta galerie, qu'une galerie avait une ligne éditoriale. Est-ce que tu peux peut-être définir en quelques mots ta ligne éditoriale pour qu'on la comprenne.
C'est pas facile de résumer une ligne éditoriale. Je pense que moi, la ligne éditoriale, c'est ce qui va m'intéresser quand je recherche un artiste, en fait. C'est comme ça que je la définis, finalement. Parce que c'est pas a posteriori qu'on dit, tiens, ma ligne, ça va être ça. Non. La ligne, c'est ce qui nous fait vibrer, ce qui nous intéresse quand on est en recherche d'un artiste. Et moi, ce que je recherche chez un artiste, en tout cas dans son travail, hein, dans son œuvre, c'est que cette œuvre, elle ne parle pas seulement à ma rétine, à mon œil. Parce qu'effectivement, il y a plein de choses qui me séduisent. On voit passer des choses sur Instagram, on voit passer des choses dans les galeries, dans les foires. Il y a plein de choses comme ça qui nous séduisent. Je m'arrête pas à ça. C'est pour ça que je lis beaucoup les cartels. J'aime bien lire. Je suis quelqu'un de l'image, enfin du texte plutôt, autant que de l'image. Et ça me dérange pas qu'il y ait du texte qui accompagne une image. Après, il y a texte et texte. Il y a le texte qui a été écrit pour justifier une image, et il y a le texte qui est écrit parce qu'il est sous-jacent à cette image. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comme ça que je pourrais définir la ligne, c'est tous les boulots qui sont soutenus par un texte, qui sont soutenus par un travail. Alors, on peut appeler ça un travail de recherche, un travail intellectuel, un travail conceptuel, peu importe. Mais moi, j'aime bien les artistes qui commencent par aller fouiner dans des archives, qui se documentent sur un lieu, sur un sujet, sur un thème, avant de commencer à produire une œuvre. En général, pour moi, c'est un gage de solidité intellectuelle d'un travail. C'est un gage de pertinence. Et c'est un travail qui, je trouve, sera d'autant plus facile à vendre ensuite à des collectionneurs à qui on la fait pas, quoi. Parce qu'il faut pas croire qu'un collectionneur, c'est juste quelqu'un qui a de l'argent, qui a envie de décorer son salon. C'est des gens qui connaissent très très bien, en général, ce milieu-là, qui connaissent très bien les artistes, parfois mieux que les galeristes même. Et ils aiment bien, justement, acheter des œuvres qui sont solides, qu'on peut prendre par différents points de vue, différents aspects. C'est un peu comme un tailleur de pierre qui va aller chercher chaque angle, chaque face. Donc moi, j'aime bien les artistes. Alors, on peut appeler ça... Enfin, moi, j'aime pas trop les cases artistes conceptuels, genre de truc, là. Mais j'aime bien les artistes un peu chercheurs. Chercheurs au sens peut-être académique, mais voilà, qui sous-tendent leur travail par une recherche.
Donc, tu regardes quand même... Avant la séduction de l'image, t'es quand même plus intéressé par la problématique et...
Pas avant, non, c'est après, parce que souvent, la première rencontre avec une œuvre, c'est par l'image. Donc, effectivement, je peux passer à côté de boulot intéressant parce que l'image ne m'a pas parlé. Tu vois ce que je veux dire?
Ah, complètement.
Ce qui est dommage, d'ailleurs, mais quand je vois un portfolio, par exemple, ok, je vois le portfolio, vite fait, donc ça m'intéresse, enfin, ça m'intéresse, en tout cas, ça intéresse mon œil, je me dis, tiens, ouais, je trouve ça chouette, mais ça suffit pas du tout. Derrière, il va falloir que je questionne l'artiste, que je comprenne pourquoi il a fait ça. En fait, c'est la question du pourquoi. Et souvent, c'est la question qui tue. Souvent, les artistes expliquent comment ils ont fait quelque chose, mais pas toujours pourquoi. Et avec la grande vogue en ce moment de la photo conceptuelle, expérimentale, effectivement, il y a plein d'artistes qui maîtrisent une technique particulière, qui sont experts dans une technique de production. Soit, ok, mais j'ai envie de savoir pourquoi ils ont fait ça. Qu'est-ce qui les a emmenés à ça? Est-ce que c'est une histoire personnelle? Est-ce que c'est un goût pour un lieu, un goût pour une période historique, un goût pour... Donc ça, c'est ma déformation, moi, d'historien, de formation, de journaliste. J'ai toujours envie de savoir pourquoi un artiste a produit cette œuvre-là. Pourquoi à ce moment-là, dans sa vie personnelle ou dans notre vie à tous? Et ça, c'est une question à laquelle je me suis rendu compte que beaucoup d'artistes ont du mal à répondre. Ou alors leur réponse est un peu évasive, un peu creuse, parce qu'ils ne se sont pas eux-mêmes posé la question de savoir pourquoi ils faisaient ça. Ce qui n'est pas du tout obligatoire, hein, mais en tout cas, moi, c'est ce qui m'intéresse.
Et tu t'empares pas de certains boulots je ne sais pas trop où je vais dans ma question, mais ça n'arrive pas aussi que le pourquoi, que le travail soit suffisamment intéressant et que le pourquoi de l'artiste soit suffisamment décevant, enfin, soit vraiment décevant, et toi, finalement, tu racontes quelque chose d'autre autour.
Ouais, alors ça, effectivement, c'est un peu une... moi, je vois ça comme une facilité. et comme un risque, un truc un peu fake, je trouve.
Ah ouais.
Et c'est ce que j'ai l'impression, je veux pas parler pour les autres, mais c'est ce que j'ai l'impression de reconnaître parfois dans certains cartels. Même dans des musées, hein, c'est pas même chez des artistes reconnus, quoi.
Ouais.
Certains cartels qui sont là un peu pour enrober un boulot et qui sont un peu décollés du cœur du travail, quoi.
Ça pose aussi la question de l'influence des boulots qu'il y a autour. On sent, surtout dans le salon approche, qu'il y a quand même une école. Une école de typologie d'artistes et de travaux présentés.
Bien sûr.
Toi, est-ce que justement tu essaies de... Quand tu cherches ou que tu vois des nouveaux artistes, tu essaies d'être un petit peu en décalage par rapport à ça. Au contraire, tu dis, ouais, en ce moment, ce type de boulot se vend, pourquoi pas essayer avec tel ou tel artiste. Comment tu vis en fait l'environnement créatif?
Bah, j'essaye de ne pas trop faire attention à ça, même si je suis influencé par ça, évidemment. Par ces modes, mais non, moi vraiment, c'est ma ligne de conduite, c'est toujours que le boulot soit construit, qui repose, comme je le disais tout à l'heure pour parler de la ligne de la galerie, qui repose sur un travail de recherche, un travail un peu conceptuel, un peu une sorte de fondation du boulot. Il faut que cette fondation elle existe, que ce soit pas juste un geste, voilà, que ce soit pas juste une maîtrise, une technique, ou je me méfie de l'imagination et de l'instinct. Alors je sais que c'est deux mots qui sont souvent utilisés pour parler d'un travail artistique. Moi, je me méfie de l'imagination et de l'instinct. Je fais plus confiance à la recherche, à l'expérience, au concept parfois, aux constructions, mm-hmm. aux constructions mentales. Voilà. En tout cas, c'est ce qui m'intéresse. Quand je lis un roman, je ne me contente pas de l'action. Ouais. Ce qui m'intéresse, c'est les personnages, la psychologie, les nuances Donc je fais confiance à ça avant de faire confiance aux modes. On a tous vu passer des modes qui durent 2-3 ans, qui sont souvent liées à des techniques anciennes qui sont beaucoup utilisées aujourd'hui, etc., qui sont remises au goût du jour. Donc je suis pas opposé à ça. Il faut juste que ce soit... qu'il y ait un truc sous-jacent, voilà, qu'il y ait toujours cette construction sous-jacente. Moi, j'ai un artiste, Lucas Leffler, qui est belge, donc qui travaille, enfin qui remet au goût du jour également ses anciennes techniques, mais ça sert à un propos qui est bien plus vaste que ça et qui est tenu. C'est-à-dire qu'il travaille sur la transition entre l'analogique et le numérique, donc il travaille sur une période autour des années 2000, et tous ses boulots sont sous-tendus par ça, par ce travail-là de recherche et d'interprétation de cette période-là qui a duré quelques années. Au tournant des années 2000. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse. Et en général, quand je présente son boulot, je commence par parler de ça, avant de parler de l'œuvre qu'il y a au mur. Donc c'est après que dans une foire, il faut raconter ça en 40 secondes. On n'a pas 10 minutes pour le faire. Mais voilà, quoi.
Ok. T'as combien d'artistes dans ta galerie, toi?
Autour d'une dizaine.
Ouais.
Alors après, il y a des artistes représentés. Ceux que je pousse plus facilement dans les foires, dans les lieux marchands,
mm-hmm.
et avec qui j'ai une relation plus serrée, on va dire. Puis après, il y a les artistes qui ont été exposés, donc là, il y en a une trentaine qui ont été exposés une fois ou deux fois à la galerie. Mais voilà, c'est une expo, puis après, ben, on se perd de vue, mais voilà. Donc, des représentés autour d'une dizaine, pas plus, donc il y en a qui sortent, il y en a qui rentrent. Je suis assez, si on peut faire une petite parenthèse sur cette histoire de contrat, de relation entre galerie et artiste, moi je bosse à la confiance, vraiment.
Mm-hmm.
Et pas de contrat. Ou alors si, comme c'est moi qui gère le stockage des œuvres, il y a quand même des listes de dépôts avec, mm-hmm. voilà, qui sont signées, qui sont précises, avec des durées aussi de dépôt. Donc ça ressemble, c'est pas un vrai contrat, mais ça fait office de contrat, quoi. Il y a deux artistes qui m'ont demandé de signer un contrat. Donc déjà, on a eu du mal à le rédiger, quoi, parce que c'était...
Mm-hmm.
Ils voulaient des trucs, enfin, ouais. Et puis, finalement, ça s'est pas bien terminé, parce que, justement, il n'y avait pas ce rapport de confiance au début.
Mm-hmm.
Et moi, tout ça avec qui j'ai pas signé de contrat, ben, on bosse encore ensemble, quoi.
Ouais, ok.
Et puis, c'est ce que je leur dis au début, quand on a une première collaboration, c'est ce que j'ai dit à Jean-Vincent. On n'est pas tenus, ni lui, ni moi. On est libre, lui et moi, On se dit les choses, vraiment. Moi, je suis super disponible tout le temps, 7 jours sur 7, même pendant les vacances. Donc, on se parle, quoi. Donc, ceux que je représente, on se parle très régulièrement. Mm-hmm. On s'écrit pour ceux qui sont à l'étranger. Enfin, voilà.
Ouais. Ouais, je vois. C'est qui est à l'origine des collaborations? Comment ça se passe? Comment ça se passe, ta découverte avec... Enfin, ta rencontre avec un artiste? Est-ce que c'est toi qui vas les chercher? Est-ce que tu fais une veille? Tu vas faire les foires, les machins, toutes les expos? Est-ce que tu es intéressé par les artistes plus jeunes? Comment ça se passe?
Alors, Alors, la question de l'âge, je m'en fous un peu. Mais moi, je fais confiance à l'arborescence. Alors... C'est un peu abstrait comme ça, mais l'arborescence, c'est-à-dire que je fais confiance aux artistes, en fait, et assez souvent, c'est des artistes qui me ramènent des artistes, ou qui me présentent, c'est pas très beau comme terme, qui me présentent des artistes. Et je fais confiance, enfin, c'est les amis de mes amis sont mes amis, quoi, c'est un peu ça. Donc, c'est pas que ça. Évidemment que moi aussi, je cherche par moi-même. Donc, je cherche en allant dans les galeries, en allant dans les foires, avec ce fameux Instagram là, qui est devenu une sorte de portfolio numérique des artistes et des galeries. Mais je fais aussi beaucoup confiance aux artistes avec qui je m'entends bien, que je représente à la galerie, et de qui je suis très proche. Je fais confiance à leur regard. Parce que je me dis, voilà, eux, tout ce qu'ils font, j'aime. J'aime leur façon de penser, j'aime leur façon de créer. Donc, s'ils aiment quelqu'un, ben, il y a de fortes chances que ça m'intéresse aussi. Alors, ça marche pas à tous les coups, parce que peut-être qu'ils aiment bien un artiste pour d'autres raisons, ben, pas pour les mêmes raisons que les miennes.
Et puis, ils peuvent avoir aussi envie d'aider un copain.
Et, exactement. Oui. Ils peuvent avoir envie d'aider un copain. Et donc, en général, ben, voilà, je rencontre cet artiste, puis après, on laisse tomber, quoi. Mais voilà, je fais confiance à ce que j'appelle l'arborescence, c'est-à-dire par les rencontres, comme elles se faisaient avant l'ère numérique. C'est-à-dire la rencontre humaine, quoi. Mm-hmm.
Et est-ce que tu fais du... Est-ce que tu fais du commissariat?
Alors, non. Non, je fais pas de commissariat parce que, en fait, comme j'ai débarqué dans ce métier-là, en partant de zéro, mm-hmm. sans formation académique... je me suis très longtemps, et peut-être encore aujourd'hui, pas trouvé assez pertinent pour en proposer. C'est une sorte de plafond de verre, tu sais. Je me dis, mais en fait, moi, je suis devenu galeriste sur le tas, quoi. Il y a des gens qui ont fait des années de formation dans le milieu de l'art. Bah, je pense que je pourrais le faire. Hein. En fait, je dis que je le fais pas, c'est pas vrai. Je l'ai fait 2-3 fois, mais un peu comme ça, en off, mm-hmm. Sans nécessairement le crier sur les toits, quoi. Mm-hmm. Et puis, c'est quand même chronophage, c'est un réel investissement, donc je peux le faire si ça se présente, mais c'est pas quelque chose que je recherche.
Il y a des commissaires qui tu travailles avec des commissaires des fois?
Ouais, ça peut se faire aussi. Ouais, ça peut se faire aussi. Si, c'est mais c'est pareil, c'est pas quelque chose que je veux mettre en place à tout prix. Mais oui, si, j'aime bien ça.
Et si on parle un petit peu collaboration, est-ce que tu peux nous parler de scéno, d'accrochage? Enfin, tu disais que tu travaillais avec une scénographe pour les salons, enfin, oui. Pour les foires. Tu fais toujours appel à une scénographe?
Alors, ouais. c'est quelqu'un qui a la double casquette, qui a une société d'accrochage, mais qui a une formation de photographe.
Okay.
Et qui fait toujours plus que l'accrochage partout où elle travaille. Et ce qui peut saouler parfois les galeristes, mais elle est vraiment pertinente. Elle s'appelle Sandrine Callard. Et c'est quelqu'un qui a commencé comme ça, comme accrocheuse, en sortant de l'ENSP d'Arles il y a une bonne quinzaine d'années. Et puis petit à petit, en fait, les gens pour qui elle travaillait lui demandaient son avis, son œil, son regard. Et là, maintenant, bah, elle gère une dizaine de personnes, elle a créé une boîte et elle bosse pour des musées du monde entier. Elle travaille pour des collectionneurs aussi, des gros clients collectionneurs chez qui elle accroche, dans leurs diverses demeures. Chez qui elle fait des... Là, il y a quelqu'un, je ne peux pas donner son nom, mais quelqu'un qui a une énorme collection chez lui et qui a décidé de tout changer de place. Donc, elle fait ce genre de truc. Donc, elle n'est pas simplement accrocheuse. Mmh. Et je trouve que cette double casquette, c'est génial pour une galerie, parce que encore une fois, quand on arrive, on débarque dans une foire, le stand, il faut qu'il soit efficace, il faut le monter très vite. Et c'est super d'avoir un regard extérieur compétent. Parce que ça, on a l'esprit embrumé par plein de trucs des fois, et voilà, ça éclaircit. Puis on réfléchit toujours mieux à plusieurs que tout seul.
Mmh. Est-ce que tu peux nous raconter de quoi tu vis, toi ?
Alors, pas vraiment de la galerie. En tout cas, je ne me verse pas de salaire à la galerie.
Ok.
Je vis des documentaires que je réalise pour la télévision.
Ok.
Donc ça, c'est mon vrai boulot sur le long terme. Et la galerie, ben, ce que je dis souvent, hein, c'est ce que je dis parfois aux artistes qui me disent « Ouais, on vend pas assez, tout ça. » Je leur dis « Ouais, mais moi, la galerie, c'est un peu ma danseuse, quoi. » Donc, je fais ça avec plaisir, avec force, avec volonté, avec enthousiasme. Mais voilà, je me paye certaines années, en fait. Il y a des années meilleures que d'autres, mais c'est pas un salaire continu. Je suis pas salarié de la galerie, en fait.
D'accord. Et tu, vraiment, c'est, en fait, oui, tu bouffes avec ton autre métier.
Ouais. Alors, la galerie rapporte un peu d'argent, mais elle en coûte aussi. Donc, ça dépend des périodes. Il y a des périodes où la galerie me coûte de l'argent, ouais, et des périodes où elle m'en rapporte.
Est-ce que tu continues de collectionner ?
Alors, moins depuis que j'ai la galerie. Parce que, pour des raisons financières.
Ok.
je contribue différemment.
Souvent aux artistes, on demande ce qu'ils pensent et comment ils vivent la centralisation parisienne. Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus ?
La centralisation parisienne, c'est un peu l'histoire de l'œuf et de la poule. C'est-à-dire que on a tous rêvé de vivre en province, de travailler en province. Moi aussi, je me dis, tiens, ce serait super d'avoir une galerie dans cette ville, genre un super grand espace et tout. Puis après, on dit, ouais, mais à qui je vendrais, quoi. Et je sais qu'il y a eu des expériences qui ont été menées à Marseille récemment, à Lille, à Lyon. Enfin, il y a des villes où il y a des galeries. Mais je pense que le marché est quand même moins dynamique, moins solide qu'à Paris. Après, je suis pas expert du marché de l'art. Hein. Moi, je connais un peu celui de le Parisien parce que voilà, ça fait 10 ans que j'y suis. Mais
tu vas en galerie ?
En galerie, assez peu. Le chiffre d'affaires, il se fait essentiellement dans les foires.
Parce que je te pose je te dis ça, oui, parce que d'un coup, je me dis, mais effectivement, il y a à Lille, il y a la galerie Bacqueville, ouais, il y a la galerie Provo Hacker, et en fait, ils viennent à Paris pour galeristes. Là, j'ai reçu le mail de Bacqueville qui est à Paris Photo, qui est souvent à Approche aussi, ouais, Bacqueville.
Mmh. Il était l'année dernière.
Ouais, ouais, et puis là, au Salon Approche, il y a aussi une galerie de Marseille. Finalement, et j'ai l'impression, et moi aussi, mon expérience, c'est que les ventes, on les fait à la foire. Et que souvent, la foire accompagne très très bien une expo dans des murs, d'ailleurs.
Oui, parce qu'en fait, le centralisme, il existe. La France, c'est un pays centralisé, on n'y peut rien, c'est comme ça. C'est pas nous qui allons changer les choses. Et j'en parlais avec un galeriste marseillais, qui me disait, mais tu sais, les collectionneurs, les gens qui ont de l'argent à Marseille et qui achètent de l'art, c'est plus simple pour eux de monter à Paris. Ils prennent le train que de venir parfois à Marseille, quoi. Alors, c'est pas vrai. C'est évidemment qu'ils pourraient très bien aller à Marseille, mais ils font le choix, certains collectionneurs marseillais, de monter à Paris. Pour aller dans une foire, pour aller voir des galeries parisiennes. Voilà, ils prennent une nuit d'hôtel, ils se passent un week-end à Paris, et ils le font plus facilement, ce que me disait ce galeriste marseillais, ils le font encore plus facilement parfois que de rester à Marseille et de bien connaître le marché marseillais. Bon, c'est un peu caricatural de dire ça, mais effectivement, je veux pas dire qu'il y a rien ailleurs qu'à Paris, hein, je veux pas laisser entendre ça, mais en tout cas, j'aurais du mal à franchir le pas aujourd'hui, tout seul comme ça, d'aller m'installer ailleurs. En tout cas en France. Après, voilà, y a d'autres villes qui sont ailleurs que Paris, dynamiques, mais c'est plutôt à l'étranger, quoi, c'est pas en France.
Je vois. En termes de représentation, tu fais quoi, toi ? T'es dans tous les vernissages. Là, la semaine prochaine, ça va être la folie des vernissages. Il y aura évidemment le tien dans le salon approche, mais il y en aura d'autres. Tu vas circuler. Comment ça va se passer ?
La semaine prochaine, je vais être un peu coincé au salon. La semaine prochaine, clairement, je ferai rien d'autre que le salon. Je vais essayer d'aller à Paris Photo quand même, un matin. Mais bon, tu le sais aussi, ça, mais les auditeurs du podcast le savent peut-être pas, c'est que quand un salon se passe bien, il n'y a pas que les ventes, il y a aussi les gens qui demandent des informations, qui demandent des portfolios, qui demandent qu'on leur envoie des trucs par mail. Et ça, en général, on le fait le soir, quand on est déjà un peu rincé par la journée à parler, à échanger avec des gens qui veulent acheter ou pas, d'ailleurs, mais on n'arrête pas de parler. Et le soir, bah, il faut vite envoyer des dossiers aux gens qui les ont demandés. Il ne faut pas attendre 2 jours pour qu'éventuellement, ils reviennent le lendemain pour acheter. Donc la journée ne se termine pas à la fermeture du salon, la journée de boulot. Donc clairement, non, je pense que je ne ferai pas de vernissage la semaine prochaine. Après, dans l'année, je ne cours pas après les vernissages. Parce que bah, moi-même, quand j'organise un vernissage à la galerie, je parle avec assez peu de monde, finalement. Bah, je parle avec plein de monde, mais pour pas dire grand-chose, quoi. Donc, je vais plutôt voir des expos qui m'intéressent en dehors des vernissages. Et parfois, j'envoie un petit message aux galeristes pour m'assurer qu'ils soient là, pour lui dire, tiens, bah, je passerai bien tel jour. Et puis, s'il me dit, bah non, je suis pas là, passe plutôt tel jour. Enfin, c'est plus comme ça que je fais les choses, ou avec l'artiste. Pour essayer d'arriver quand j'arrive à l'expo, qu'il y ait quelqu'un pour m'expliquer un peu les œuvres ou qu'on puisse échanger. Mais c'est plus comme ça que je fonctionne que d'aller au vernissage. C'est peut-être une erreur, hein, mais je sais que dans le vernissage, j'ai l'impression de passer un peu à côté des choses, quoi.
Oui, puis ça dépend pourquoi on va dans la galerie. Si le vernissage, effectivement, tu vas pas forcément spécialement pour rencontrer le travail de l'artiste.
Ouais.
Plus, moi je le vois comme un soutien. J'en fais très peu des vernissages, mais je sais que si je vais à un vernissage, c'est aussi pour mettre un nombre ou accompagner essayer de mettre du succès sur l'événement, quoi.
Genre, oui, bah, par exemple,
il y a du monde, quoi.
Voilà, mais moi je vois les choses comme toi, exactement. C'est-à-dire que là, je suis allé au Frénois avant-hier, pendant la tempête, là, sur la route. Là, Donc, je suis monté avec ma voiture au Frénois pour aller voir l'expo des étudiants là, du Frénois. Et le soir même, normalement, il y avait un vernissage de David de Better.
D'accord. Là-bas.
Et donc, j'avais prévu d'y aller le soir. Bon, et ça a été annulé à cause de la tempête. Mais voilà, je me suis dit, tiens, je vais quand même passer, alors que je savais que je le verrais la semaine prochaine. Je me suis dit, je vais passer, c'est le vernissage, je suis sur place. Autant aller à Lille.
Oui, tout à fait.
Mais c'était plus par une sorte de gentillesse, de politesse que j'y passais. C'était pas vraiment pour profiter des œuvres, parce que je sais qu'il y a d'autres circonstances pour le faire.
T'as fait des conneries dans ta galerie ? T'as déjà fait des belles conneries dans ton taf ? Dis-moi, est-ce que t'en as une à raconter ?
Oui. Les plus grosses conneries que j'ai faites dans les premières expos quand je vais voir la galerie, c'est de dépenser trop d'argent dans la production. Et de ne pas faire le simple calcul. Moi, j'ai une formation littéraire et plutôt sciences humaines.
Ouais.
De ne pas juste faire le bête calcul, de se dire combien va coûter cette expo, combien il va falloir que je vende pour m'y retrouver, quoi.
D'accord.
J'ai fait ça 2 fois. Et évidemment, ça n'a pas manqué. Hein. J'ai pris le bouillon 2 fois. L'artiste avec moi.
Donc, yes, tout le monde prend le bouillon. Parfait.
Très génial vernissage, vraiment. Vernissage, la rue était pleine, noir de monde.
Ouais.
Champagne et tout. Enfin, c'était vraiment une très, très, très belle fête.
Ouais.
Mais 15 jours après, c'est douche froide, quoi. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'on a fait, là? Donc, bon, grosse erreur de débutant.
Ouais.
Et d'ailleurs, c'est marrant parce que il y avait plein de galeries dans le quartier, quoi. Et quand ils ont vu le vernissage, ils m'ont dit, non, mais t'as fait quoi, là? Enfin, eux, ils voyaient bien que je faisais une connerie, quoi. Voilà, quoi. Donc, c'était. Première erreur, donc les vernissages suivants étaient un petit peu plus modestes, toujours amicales, sympa, mais... D'ailleurs, certaines personnes étaient déçues. Donc, non seulement on avait perdu de l'argent,
ouais.
Mais en plus, des gens te faisaient le reproche ensuite de dire « Mais non, mais c'est pas comme avant les vernissages. »
Ça a changé, merde.
Ouais.
Ah ouais, pas mal. Ouais, joli.
Donc, là, je parle du vernissage, mais il y avait aussi dans la prod des œuvres et tout, on avait trop produit, pas intelligemment, enfin, on avait dépensé beaucoup d'argent pour rien, en fait.
Quelle est la pire chose qu'on t'a dit pendant un vernissage ?
Je me souviens de pires choses qu'on ait faites, que les gens... Aient... Voilà, mais pas vraiment. J'ai plutôt tendance à oublier les mauvaises choses qu'on me dit, tu sais. Non, les trucs... pareil, dans ces premiers vernissages, c'était un peu la fête. C'est un peu comme quand tu fais une brinque chez toi et que tu sais pas trop qui y a dans ta maison.
Bah voilà, j'ai eu des déconvenus, quoi. Des gens qui sont allés se servir dans le frigo, qui sont allés se servir dans la cave, carrément, tu sais, où tu gardes des bonnes bouteilles et tout. Enfin, donc, c'était un peu comme une fête qui dégénère, quoi. Donc, non, c'est plus ça, des mauvais souvenirs de vernissage. Je me dis, enfin, c'est juste un problème d'éducation, tu sais, quand tu vas à un vernissage, bon, tu. Pas dans un bar non plus, quoi. Enfin, ouais. Même dans un bar, tu dois bien te tenir, mais dans une galerie. Donc, c'est plus ce genre de déconvenu que j'ai eu avec certains visiteurs, mais chose qu'on médite. Peut-être qu'on m'a dit des choses un peu connes ou désagréables, mais j'ai oublié, je pense.
D'accord. Ouais. D'accord. Est-ce que tu participes à des jurys ? As-tu des conseils à donner aux artistes sur les jurys et sur comment envoyer son travail, comment constituer un dossier ? Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus ?
Alors oui, j'ai participé à des jurys. Le conseil que je pourrais donner aux artistes, c'est déjà de respecter les règles qui sont édictées par le jury. Quand il faut constituer le dossier. Donc c'est un truc con, mais voilà, c'est juste rester bien dans les clous, parce que le jury, il a plein de dossiers à lire. Mm-hmm. Et parfois, dans un laps de temps très limité, donc on les lit vite, les dossiers. Et si le dossier, il est un peu plus long que prévu, si le texte, il est plus long que ce qu'on avait demandé, bon, bah, ça va un peu. On sira moins attentif, ou peut-être même donc, qu'on n'ira pas tout.
Ouais.
Voilà, donc c'est déjà respecter bien le cadre, même s'il y a un cadre, c'est toujours contraignant, mais voilà, il faut le respecter.
Et puis après, bah, c'est toujours pareil, être clair avec soi-même déjà. Quand on se relit, s'il y a un truc qu'on n'a pas compris, ou quand on le fait lire à quelqu'un, si c'est pas clair, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc,
En règle générale, moi je le fais pour moi, mais je dirais voilà, aux gens de faire relire ce qu'ils ont écrit à une personne qui n'y connaît rien et qui est un peu. Qui connaît pas le boulot, et pour voir si elle a bien compris. Quoi.
Tiens, d'ailleurs, ça m'amène à une question que je t'ai pas posée tout à l'heure sur le regard extérieur. Est-ce que tu as quelqu'un qui, pas un parrain, mais quelqu'un qui t'apporte un regard sur ton travail et qui peut-être t'orienter ? Est-ce que tu demandes des conseils à des gens autour de toi ? Pas que la scénographie ou ces choses-là, mais j'en sais rien, tu vas bosser avec un nouvel artiste ou une nouvelle artiste. Qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que je devrais bosser avec lui ou elle ? Est-ce que t'as quelqu'un comme ça ?
Oui. Après, je peux pas dire qui, parce que non, parce qu'en fait c'est des collègues, ça peut être, enfin si, il y a deux personnes, avec qui je parle, je peux avoir ce genre de conversation.
D'accord.
Qui sont
galeristes comme toi ?
Non, alors il y en a une, c'est une ancienne galeriste, et puis l'autre c'est quelqu'un qui est plutôt artiste.
D'accord.
Je dis plutôt artiste, c'est que c'est un artiste qui fait autre chose aussi.
D'accord.
Donc, ouais, c'est deux amis, en fait.
D'accord.
À qui je pose, pas toujours, mais des fois, quand j'ai un doute, ou quand j'ai besoin, quand vraiment je sais pas comment trancher, bah oui, effectivement, je peux faire appel à eux.
Et c'est pas systématique. C'est pas...
Je le fais pas toujours, non. Je fais pas toujours, parce que des fois, il y a des choix qui me semblent un peu évidents. Mm-hmm. Quand je fais ça, souvent, c'est par rapport à une nouvelle collaboration avec un artiste ou une artiste. Et parfois, ça me semble évident. Enfin, quand je me fais confiance aussi, je me dis, voilà, c'est vraiment...
C'est quoi tes craintes sur une nouvelle collaboration ? Tu rencontres le travail te plaît, c'est vachement bien, t'en parlais tout à l'heure, mais tu dis, mais en fait, c'est pas que ça. Ouais. Il faut, voilà, mais c'est quoi tes craintes ou...
Alors ça, c'est important.
Des trucs où tu vas être attentif
Ouais, alors il y a un truc super important et qui est très dur à estimer, c'est ce que j'appelle l'endurance. L'endurance d'un artiste. C'est-à-dire, est-ce qu'il en a sous la pédale ? Et ça, pour moi, c'est ce qui fait vraiment toute la valeur d'un artiste, c'est d'essayer d'arriver à voir s'il est habité par son art, enfin, s'il est vraiment hanté par ça, et s'il va vraiment continuer à produire d'autres projets, si vraiment il a un cap, une ligne directrice. Et parfois, même pour l'artiste lui-même, c'est pas évident de le savoir. Mais moi, j'essaye de creuser un peu, c'est pour ça que je suis beaucoup plus patient qu'avant. Avant de commencer une collaboration,
ouais.
c'est d'essayer de comprendre si ça va durer, tout simplement. Et quand je dis si ça va durer, je ne parle pas de la relation.
Non, tu parles du travail.
C'est si l'artiste lui-même va durer, quoi. Et s'il a envie, si vraiment c'est pas juste un hobby pour lui ou une passade, quoi.
Mais ça, c'est une question qu'on pose souvent, que les jeunes artistes, moi aussi, je l'ai posé quand je suis sorti des Beaux-Arts, où j'avais une grande envie de reconnaissance et de réussir mon métier. D'ailleurs avec des idées un peu erronées sur ce que c'était vraiment que le métier d'artiste, d'où ce podcast. Et souvent on me répondait, mais il faut juste travailler. Et je trouve que c'est pas un sprint, c'est bien un marathon.
C'est un marathon, et en fait, dans le début d'une relation, parce que parfois c'est compliqué pour un jeune artiste de dire ah bah oui, moi je sais que je vais faire ça pendant 20 ans. De fait, mm-hmm. il le sait pas, mm-hmm. parce qu'il faut manger, il faut voilà. Mais le galeriste, en tout cas, enfin moi, quand je rencontre ces jeunes artistes ou qui sont peut-être un peu au début de leur carrière, il y a des signes qui me font dire que ça va durer. Et des fois même, je ne leur dis pas, parce que pour ne pas leur donner trop confiance. Ou, mm-hmm. mais, par exemple, si je vois qu'un artiste, il est très pointilleux, qu'il est très exigeant avec son travail et avec lui-même, qu'il est très à cheval quand il a une idée, un concept, c'est pour ça que je parle souvent d'idées, mm-hmm. pour moi, le travail conceptuel est très important. Si vraiment il est très exigeant et qu'il va passer du temps dans les fondations avant de produire quelque chose. Si je sens que ces fondations intellectuelles sont présentes, solides, quitte à travailler lentement, souvent les bons artistes travaillent lentement, je trouve, et qu'il ne va pas se dire, bon, vite, il faut que je finisse, là, c'est quand ton expo, il faut vraiment que j'ai fini avant, je dis, non, l'expo, on la fait plus tard, c'est pas grave. Pour moi, le signe positif, c'est si on déplace une expo de 6 mois, parce que l'artiste, il n'est pas prêt, et qu'il a envie de finir son boulot. Mmh. Ça, c'est des signes positifs pour moi. Quelqu'un qui me dit, quelqu'un qui travaille vite, ça veut pas dire qu'il est pas bon, mais je vais chercher à comprendre pourquoi ça va vite, quoi. Si c'est pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Si c'est pour de bonnes raisons, tant mieux, mais parfois c'est pour de mauvaises raisons. C'est parce qu'il a juste envie de faire une expo et ça, en général, ça dure pas très longtemps, quoi. La collaboration, elle... Mm-hmm.
Je vois. Dans ce cas, est-ce que tu peux nous dire comment un artiste, il doit te contacter?
Alors, surtout pas pendant une foire. C'est souvent les artistes disent, ouais, c'est un connard ce galeriste, je suis allé le voir, il m'a même pas dit bonjour. Je dis, ouais, si c'est pendant une foire, c'est sûr que. Donc, une foire, voilà, c'est tellement tendu que non, faut pas. Après, en galerie, il n'y a pas de bon moment, de mauvais moment. Par contre, vraiment, le conseil de base, je pense qu'il faut donner, c'est avant d'aller voir une galerie, il faut déjà regarder ce que fait la galerie, regarder les artistes de la galerie, essayer de deviner la ligne de la galerie. De se dire, tiens, il y a quand même 4-5 artistes là qui font un peu tous ce genre de boulot. Et donc, si son propre travail est en résonance avec ces boulots-là, effectivement, on peut commencer à aller voir la galerie, le galeriste. Mais
ça, c'est les raisons. C'est-à-dire que si on sent qu'on est en adéquation avec...
Mais c'est important. Parce
oui, non, bien
que,
sûr. Mais...
souvent contacté, les gens, moi, j'ai plein de gens qui me contactent pour de la peinture, pour des... Alors,
oui.
Jamais vu. Donc, après le moment, donc pas une foire, c'est sûr. Alors, les fameux vernissages, je dirais non plus. Enfin, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, j'oublie les 3/4 des gens à qui j'ai parlé pendant le vernissage. Donc je dirais plutôt au milieu d'une expo, un jour un peu creux en semaine, le galeriste se fait un peu chier des fois, là c'est un moment pour discuter effectivement.
Okay. Voilà. D'accord.
Et après par mail, c'est pas très productif, mais c'est quand même pas mal de doubler par un mail, ou de commencer par le mail et ensuite d'aller voir le galeriste.
Okay.
Parce que le mail, c'est aussi pour le galeriste l'occasion de regarder un peu le boulot, ouais. quand il veut, quoi, tranquillement, quoi. Alors qu'en galerie, on peut arriver au mauvais moment.
Sur les 10 personnes que tu représentes, combien sont rentrées en contact avec toi directement?
Ça, c'est une bonne question. Alors, avant de répondre, je réfléchis, parce que là, je suis à deux doigts de dire aucune. Mais...
Bonjour, c'est aucune, en vrai.
Mais... en général, c'est aucune. Non, mais c'est... C'est violent de dire ça. J'imagine pour un jeune artiste qui écoute le podcast, là, ça peut sembler violent de dire ça, mais malheureusement, c'est un peu la réalité. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de l'arborescence.
Ouais.
C'est qu'en fait, effectivement, les rencontres spontanées, ça ne marche pas en général. Par contre, par un autre artiste qui est en relation avec le galeriste ou par quelqu'un d'autre qui... En tout cas, ce qui me concerne, c'est souvent comme ça que ça s'est fait. C'est par affinité, par acquaintance.
D'accord. En même temps, c'est violent et pas violent, parce qu'il n'y a pas qu'un seul chemin dans la vie d'un artiste, et on n'est pas obligé d'être en galerie.
Bien sûr.
Parce que, enfin, même si on est en galerie, finalement, il y a quand même 9 chances sur 10 pour qu'on n'en vive pas.
Bien sûr.
Des ventes, quoi.
Bien sûr.
Donc, partir de là, ça ne fait pas tout. Mmh. Et puis, il y a des boulots qui ne sont pas forcément faits pour rentrer en galerie. Et donc, c'est...
Et puis juste une petite parenthèse sur ce que tu dis, c'est très important. Non seulement la plupart des artistes ne vivent pas de leur travail en galerie, Mais en plus, même quand un artiste vit bien de son travail en galerie, il faut bien comprendre que ce... Enfin, vit bien, voilà, qui vit. Ça, c'est quand même relié à un boulot en particulier, à un projet. Mm-hmm. Une fois que la galerie, elle a bien vendu ce projet et tout, bah, en général, c'est des périodes. C'est vrai que tu peux... Ouais. Ça marche bien avec une galerie, mais ça marche jamais bien pendant 20 ans. Enfin, ça peut... Mais avec des hauts et des bas, quand même. C'est pas un salaire régulier, quoi. C'est ça que je veux dire aux gens, quoi. C'est pas parce que t'es représenté par une galerie que chaque mois, tu vas toucher, je sais pas combien, 2000, 3000 ou même 500 euros.
Non, bien sûr, bien sûr.
Des fois, c'est beaucoup plus, des fois, c'est beaucoup moins. Hein. Ouais. Des fois, c'est zéro pendant 6 mois. Bah voilà, c'est pas du tout c'est pas un métier comme un autre. Hein. Bah, sinon, de toute façon, artiste, c'est pas un boulot comme un autre, ça.
Oui. Oui, tout à fait. Bah, on a fini. Je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions. Est-ce que tu as quelque chose dont tu aurais envie de parler, qu'on n'a pas abordé, que tu vois un manque?
Non, peut-être juste de dire, si on s'adresse aux artistes plus particulièrement, leur dire qu'il faut quand même, dans ce long parcours, dans ce long marathon, dans cette longue course d'obstacles, moi je pourrais juste leur parler des collectionneurs de ce monde un peu bizarre, des collectionneurs, hein, c'est un truc un peu abstrait pour eux, je pense, aujourd'hui. Il faut qu'ils gardent espoir, parce que moi, ce que j'ai découvert dans ce boulot-là, c'est que la plupart des collectionneurs sont des gens qui sont enthousiastes et généreux, et qu'il y a encore beaucoup de mécènes, même si ça ne s'appelle plus comme ça, qui soutiennent les jeunes artistes, et qui achètent régulièrement des œuvres, parce qu'ils ont envie qu'un peu d'argent revienne à ces artistes pour qu'ils continuent à produire, parce qu'ils aiment leur boulot. Enfin, ce mécanisme-là, il existe encore.
Ouais. Yann, merci beaucoup.
Merci à toi.
À bientôt.
À bientôt.
Merci beaucoup pour votre écoute. Vous pouvez retrouver les actualités de la galerie sur son site internet interval.art, également sur Instagram @galerieinterval et sur celui de Yann @yanndimeglio. Vous pouvez suivre le projet Sans Titre sur notre Instagram @sanstitre.cast. Vous y trouverez toutes les informations des enregistrements passés et à venir. Générique par Olivier Schloberg. Bisous.